Je vous invite à vous tourner dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21. Nous sommes donc dans cette période où Jésus, c'est la dernière semaine de sa vie sur terre, lorsqu'il est venu il y a près de 2000 ans, et nous avons remarqué qu'il sait ce qu'il attend, la croix. Il est au début de la semaine, vendredi il sera crucifié, ressuscité, nous le savons, et ça c'est la merveille de Pâques, c'est qu'il sera vraiment ressuscité pour vivre pour vivre pour toujours. Et dans cette dernière partie de sa vie terrestre, il remet un peu les pendules à l'heure, il donne ses sentiments vis-à-vis des chefs religieux de l'époque qui le détestaient avec une haine mortelle, parce qu'il remettait en cause leur statu quo, il remettait en cause leur religion, leur religiosité. Et Dieu merci, aujourd'hui nous n'avons pas à nous préoccuper d'une religion, nous avons à nous centrer sur une personne, cette personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et là nous allons voir que Jésus aime bien regarder ce qui se passe autour de lui. Et il n'a pas cessé de le faire. Des fois nous pensons que nous sommes tout seuls, mais nous ne sommes jamais seuls. Jésus nous voit, Jésus prie pour nous, Jésus s'attend à ce que nous fassions le bien. Il sait aussi que nous sommes des pécheurs, nous allons chuter. Nous sommes souvent déçus, déprimés par nos chutes, par nos péchés. Jésus est peut-être déçu, mais il n'est jamais surpris par ses péchés. Et là, on le voit qui est en train de regarder. On va lire verset 21, en commençant verset 1. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une veuve indigente qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus et la Bible parlent souvent d'argent. Pas parce que Dieu a besoin de notre argent, mais parce que notre relation à l'argent montre de façon extérieure, de façon externe, ce qui est à l'intérieur de nos cœurs. Elle montre, l'usage que nous faisons de l'argent montre notre foi, l'usage de l'argent montre notre égoïsme ou non. Et cet épisode de la petite veuve est bien connu. Il se trouve aussi dans l'évangile de Marc. Et on sait que les chefs religieux et les gens riches de l'époque aimaient bien lorsqu'ils faisaient une offrande au temple. Il y avait des espèces d'urnes en forme de trompette inversée et on pouvait mettre une pièce et quand elle tombait, elle faisait pas mal de bruit. Et il y a même certains de ces riches qui, lorsqu'ils allaient donner de l'argent, en faisaient toute une affaire. Ils avaient quelqu'un qui jouait un petit coup de trompette. Un peu comme aujourd'hui, quand on voit à la télé, il y a des gens qui ont signé un grand chèque. Alors on a imprimé le chèque sur un morceau de bois. Et on dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est généreux. Ou qu'est-ce que cette organisation est efficace. Comment ? Et ici, cette histoire de la petite veuve qui met deux petites pièces. Le mot en grec veut dire des petites pièces toutes minces. Et chaque fois qu'il est question de pièces ou de monnaie de l'époque, on essaye de trouver des équivalents. Mais je crois qu'on pourrait facilement penser qu'elle avait deux pièces de 1 centime d'euro et que ça représentait tout ce qu'elle avait. Elle aurait pu, et personne ne lui aurait reproché, en mettre une et garder l'autre pour elle. Mais non, elle a tout mis. Et on peut imaginer que Jésus regarde ça, il voit ça de loin, il part à ses disciples. Et la petite veuve ne sait même pas qu'elle est observée. Et l'idée, c'est que, en fait, elle a donné plus que les autres. Alors vous dites, c'est pas possible, elle a donné deux petites pièces de 1 centime, 2 centimes d'euros, c'est rien du tout. Alors que cette personne a fait un gros chèque de 100 euros, de 500 euros, de 1000 euros. Mais Jésus explique, c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc. C'était beaucoup d'argent, mais ça ne leur coûtait pas beaucoup personnellement. Et c'est Jean Covin, le célèbre théologien franco-suisse, français, qui a vécu à Genève, qui disait que cette leçon, elle était utile de deux façons. Elle est utile pour les pauvres, parce que elle enseignait que même une petite contribution faite avec le bon esprit, avec le bon cœur, pouvait représenter quelque chose d'énorme. Et c'est des fois ce que je rappelle, c'est pas, même si vous n'avez pas de ressources énormes, vous pouvez mettre des petites pièces derrière. C'est pas l'idée que ce que je donne ne servira à rien, donc c'est même pas la peine que je donne, c'est de montrer que vous faites confiance à Dieu en lui donnant ce qui lui revient. Tout ce que vous avez, tout ce que j'ai appartiennent à Dieu. Ma santé, ma vie, ma famille, mes ressources, même mes ressources financières. Tout ça, ça peut être repris du jour au lendemain. Et la dîme, c'est l'offrande que l'on fait à Dieu, un dixième de ses revenus dans l'Ancien Testament, plus que ça si on le veut dans le Nouveau Testament. C'est une façon de dire à Dieu, voilà, je remets cette portion dans ton trésor, dans tes revenus, parce que je veux te signifier que je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi et t'appartient. Et puis c'était une bonne leçon pour les riches, pour dire que ce n'est pas le montant qui va importer, ce qui compte ça va être le cœur de votre, lorsque vous donnez, est-ce que c'est un sacrifice ou est-ce que c'est juste une formalité pour vous. Alors on va pas passer énormément de temps, mais juste rappeler qu'on peut faire quatre observations. Ce qui compte, c'est pas le montant lorsqu'on fait des dons, c'est l'attitude de nos cœurs. Et c'est, encore une fois, on peut voir dans la parole de Dieu des tas de références à notre libéralité, la façon dont on doit être généreux avec les autres, avec Dieu. Et par exemple, Paul disait dans 1 Corinthiens 13, 3, « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Si on ne le fait pas par amour, si on ne le fait pas pour honorer Dieu, sincèrement, alors ça ne sert à rien. Donc ce n'est pas le montant. Deuxième chose, c'est les dons qui plaisent à Dieu, ce sont les dons qui nous coûtent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la dîme, c'est historiquement, bibliquement, dans l'Ancien Testament, un dixième de nos revenus. mais rien n'empêche de donner davantage. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de ressources, un dixième, ça va être une amputation sérieuse de ses revenus. Pour Bill Gates, donner un dixième de ses 160 milliards de dollars, ça sera beaucoup pour ceux qui les reçoivent, mais pour lui, ce n'est pas énorme. Et si vous vous souvenez, il y avait un passage, un très beau passage du roi David dans 2 Samuel 24. 2 Samuel 24, David avait voulu bâtir un temple à Dieu, mais comme c'était un guerrier, ses mains étaient couvertes de sang, Dieu lui avait dit que ce ne serait pas lui qui bâtirait un temple, mais son fils Salomon. Et après avoir fait un recensement qui avait provoqué la colère de Dieu, David avait eu l'option de trouver du terrain. Et au verset 18 de Samuel 24, juste avant le début du livre des rois, ce jour-là, Gad arriva chez David et lui dit: monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Yébousien. Donc il y avait cet homme qui était d'origine d'une ville qui s'appelait Yébous, il était le Yébousien et il s'appelait Aravna. En anglais, on dit Arona. Et il demande à David: David, pourquoi tu viens me voir? Verset 21, pour t'acheter l'air, le terrain, et pour y bâtir un autel à l'Éternel afin que la plaie se retire du peuple. Et Aravna, devant le roi, lui dit: écoute, je te donne le bétail, l'attelage et tout, ça sera. Voilà, je te donne tout gratuitement pour que tu puisses faire un autel et sacrifier un holocauste, c'est-à-dire faire brûler du bétail complètement en signe de complète consécration. Et mais le roi, verset 24, dit à Aravna: non, je ne t'achèterai en bonne et due forme, mais pour un prix. Et puis ces paroles: je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes gratuits. David acheta l'air et le gros bétail pour 50 sicles d'argent, une somme d'argent importante. Mais David ne voulait pas qu'il soit dit qu'il offre quelque chose qui lui coûtait rien. Et ça, c'est à chacun de voir dans nos cœurs. Est-ce que lorsque je donne, je me prive de quelque chose? Est-ce que c'est un sacrifice pour moi? Ou est-ce que c'est quelque chose que je donne et que je ne remarque même pas? J'aime bien ce que disait un pasteur anglais, Joseph Parker, à Londres, il y a deux siècles maintenant, au 19e siècle. Lors de la richesse qui est donnée parce qu'on n'en a pas besoin, Dieu le jette dans l'abîme sans fond. Mais le cuivre, un matériau moins précieux, qui est taché de sang parce qu'il nous a coûté, nous avons dû travailler, nous avons dû aller jusqu'à nous blesser, ce cuivre taché de sang, il l'élève et le transforme en or pour l'éternité. Est-ce que ça nous coûte de donner ou pas? Là, pour la petite veuve, c'était tout ce qu'elle avait. Un autre point, c'est que Dieu peut faire de grandes choses avec de toutes petites offrandes. Et je l'évoquais, des fois on se dit, ben, j'ai pas de quoi donner 10 euros, ça sert à rien. J'ai même pas de quoi donner 1 euro, je vais quand même pas mettre mes 50 centimes ou 37 centimes dans la boîte. Sachez qu'il y a du feutre au fond, donc la pièce ne fera pas de bruit. Soyez rassurés si c'est ça qui vous gêne. Sinon, vous pouvez mettre ces pièces pour les dons pour le café. Mais ne croyez pas que parce que vous ne pouvez pas faire un gros chèque, votre offrande ne va pas compter. Et j'aimais cette remarque que quelqu'un faisait en disant que ces deux petites pièces, ces deux petits centimes, ont produit un fruit incroyable pour le royaume de Dieu dans les siècles qui ont suivi. Parce qu'elle a encouragé les gens à donner même des petites sommes. Et on sait que ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Des petits dons, elle a libéré la générosité de millions de personnes au cours de l'histoire. Et ces deux petits centimes qu'elle avait investis, ils ont produit beaucoup plus que les grosses sommes d'argent qui ont été laissées ce jour-là par les gens riches en faisant de la trompette, etc. Et ces deux petites pièces, vous voyez, on en parle encore aujourd'hui. On s'encourage les uns les autres à donner même un centime ou quelques centimes. C'est servi d'instruction, de motivation pour l'Église. Une autre marque, c'est intéressant de savoir que Jésus va, à la fin des temps, quand nous comparaîtrons devant lui, si nous sommes sauvés ou si ce sera le tribunal de Christ, pour connaître les récompenses que nous aurons ou pas. Pour les autres, ce sera le jugement du grand tribunal, du grand trône blanc. Rien ne nous dit que cette petite veuve a su qu'on allait parler d'elle pendant les siècles à venir. Et elle va découvrir un beau jour ce que Jésus a dit d'elle et qu'il a apprécié sa générosité. Et c'était aussi intéressant de voir qu'il est dit qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus est allé même plus loin. Quelques jours plus tard, il allait donner tout, y compris sa vie, pour que nous vivions. Et encore une fois, on peut faire comme la veuve. Ce qui compte, ce n'est pas notre argent, c'est nous-mêmes. J'avais un ami qui est décédé, qui était un grand évangéliste personnel. Il aimait bien partager sa foi avec tous les gens qu'il rencontrait. Et une fois, je l'avais vu, on prenait un café avec quelqu'un qui n'était pas chrétien. Et la personne lui disait, mais moi je voudrais bien croire, mais et puis en plus j'ai pas le temps, le dimanche matin je dois travailler, je peux pas aller à l'église. Et mon ami lui disait, mais Dieu veut pas ta participation à l'église le dimanche. Ce que Dieu veut, c'est toi. Il veut beaucoup plus que nos petites pièces. Nos pièces, nos dons sont juste un signe de consécration. Il n'y a pas de différence, on peut, qu'on soit riche ou pas, qu'on ait de l'éducation ou pas, qu'on soit connu ou inconnu. Les questions qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que je donne ? Est-ce que je donne à contre-cœur ou de bon gré ? J'aime bien l'histoire de cet homme qui dit à sa femme, « Zut, je voulais donner 5 euros et je me suis trompé de billet, j'ai mis 20 euros dans la corbeille. » Et sa femme lui dit, « Oh, fais pas de souci, Dieu ne te créditera que 5 euros. » Est-ce que nos dons nous coûtent ? Et quelle est notre attitude quand on ne nous regarde pas ? Est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices lorsque personne n'est là pour les remarquer ? Et on pourrait passer des heures à étudier cette offrande de la veuve. Encore une fois, je vous rappelle que les divisions, la parole est inspirée, les divisions de la Bible, les chapitres, les versets ne sont pas nécessairement inspirés. Et c'est vrai qu'on pourrait rattacher cette portion au chapitre précédent où Jésus reprenait les chefs religieux. Là, il continue, elle leur dit, vous croyez impressionner Dieu en donnant des grosses sommes d'argent, mais moi je vous dis, cette petite veuve, cette personne insignifiante apparemment, elle a plus d'importance par sa générosité que vous n'en aurez jamais. La partie qui commence au verset 5, c'est quelque chose qu'on trouve dans Matthieu 24, avec beaucoup de détails, et dans Marc 13, c'est des fois ce qu'on appelle le sermon des oliviers. ou le sermon sur le mont des Oliviers. Et on va lire ensemble à partir du verset 5. Comme quelques-uns disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit : Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent : Maître, quand donc cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe annonçant ces événements ? Jésus répondit : Prenez garde d'être séduits, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : C'est moi, et le temps est proche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver premièrement. Mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors il leur dit : Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et par endroits des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par des parents, des frères, des proches et des amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs à cause de tous, à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauvegarderez vos âmes. On va s'arrêter là pour quelques instants. Jésus parle à ses disciples qui sont émerveillés devant la beauté du temple de Jérusalem. Ce temple, c'était le temple qui avait été reconstruit par Ezra et Zérubbabel et qui avait été amélioré pendant des dizaines d'années par le roi Hérode, qui était un grand bâtisseur. Et on dit que c'était vraiment un temple spectaculaire, c'était une des merveilles du monde de l'époque, de l'Empire romain. Il y avait des belles pierres, en effet, il y avait des pierres, et quand on va à Jérusalem, on peut voir dans le prolongement du mur des Lamentations, lorsqu'on rentre sous terre, il y a un passage, on peut voir des pierres énormes, des pierres de 10 mètres de long, de 4 mètres de haut, de 5 mètres de large. Des pierres énormes. On se demande, et les scientifiques se demandent comment ils arrivaient à les mettre en place. Et en plus, elles sont mises les unes sur les autres de façon à ce qu'il n'y ait même pas la place de passer un couteau. C'est remarquable. Et donc, c'était pour les Juifs, le temple, c'était une merveille. C'était quelque chose d'absolument splendide et solide, que rien ne pouvait ébranler. On dit aussi, c'est l'historien Joseph, Flavius Joseph, qui était un historien juif, mais non croyant, qui décrivait avec beaucoup de précision les événements de l'époque, et disait qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de décorations d'or sur les portes. Il y avait des feuilles de vigne qui étaient peintes en or, recouvertes d'or plus exactement. Et de loin, du Mont des Oliviers, quand on le voit aujourd'hui, maintenant il y a une mosquée, il y a le dôme de la mosquée Al-Aqsa qui est doré, qui est splendide. Mais on voyait tout ça resplendir et les énormes pierres du temple avaient une couleur blanche orangée. Aujourd'hui, quand on va à Jérusalem, on peut voir beaucoup de bâtiments dans cette pierre splendide de couleur, un orangé très pâle, blanc, et ça resplendissait au loin. C'était un spectacle remarquable. Il y avait aussi des objets qui avaient été apportés en offrande. Les gens n'avaient pas pris leur vieux canapé pour le donner à l'église. Ils avaient acheté des choses somptueuses. Et Jésus a ces paroles étonnantes. Il va venir un temps où tout ce que vous admirez en ce moment, il n'en restera rien. Il n'y aura pas une pierre qui ne soit pas renversée. C'est inconcevable pour eux. Aujourd'hui, on a été échaudés, on est passé par le 11 septembre, par les tours de Manhattan qui se sont détruites en un instant. Qui aurait cru le matin que le soir, ces deux splendides tours, un tribut à l'ingéniosité humaine, à la finance, à la puissance humaine, seraient que des gravats. Donc nous, le fait qu'un bâtiment soit détruit, même si on pense que c'est un bâtiment formidable, ça ne nous choque pas. Mais pour eux, il n'y avait pas eu encore le 11 septembre. Et pour eux, c'était inconcevable. C'est là qu'ils lui demandent, « Maître, quand est-ce que ça va se passer? Quel sera le signe annonçant ces événements ?» Et un thème qui revient dans la réponse de Jésus, c'est faites attention à ce qu'on vous dit. Prenez garde d'être séduit. Il va y avoir des faux prophètes, des faux messies, des gens qui vont venir et qui vont dire c'est moi, je suis le messie. Ne les croyez pas. Ne les suivez pas. Quelqu'un me faisait remarquer, c'est bien vu, qu'en fait, on a l'habitude de se moquer du pauvre Thomas, l'apôtre qui voulait mettre ses mains dans les plaies du Seigneur pour savoir si c'était vraiment lui. En fait, il était peut-être le seul à vraiment mettre en pratique cet avertissement de Dieu. Ah oui, on a dit, Jésus lui nous a dit qu'il y aurait des gars qui viendraient, qui nous diraient « je suis le Messie, je veux vérifier ». Et donc peut-être qu'il était moins digne de nos colibés, de nos moqueries, que Jésus ne le pensait. Et puis il décrit, pour annoncer les signes qui vont annoncer ces événements, il décrit des guerres, des désordres. Mais ne vous effrayez pas, car ce sont des choses qui doivent précéder les événements de la fin. Ce ne sera pas tout de suite la fin. Il cite un verset de Ésaïe 19, « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre, par endroits des pestes et des famines, des épidémies, des maladies, des grands signes dans le ciel. » Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois, vous aurez à subir tout ça à cause de mon nom. Ces paroles de Jésus peuvent être très réconfortantes lorsqu'on se retrouve dans des situations de persécution. Mais c'est vrai qu'il faut se poser la question, est-ce que je suis persécuté parce que je veux annoncer le Messie, parce que je veux glorifier le nom de Jésus, ou parce que je suis un imbécile, ou parce que je fais des choses illégales? C'est en même temps, pour ceux qui sont dans ces situations, et on le sait de plus en plus, nos frères et sœurs dans l'Église persécutée de par le monde, ils peuvent être encouragés par ces paroles. Et on ne sait pas, nous, comment on réagirait face à la persécution. On ne sait pas comment on réagirait si on était enfermé depuis 3 ans en prison, battu, laissé malade. On peut continuer de prier pour le pasteur Saïd. Le président Obama a enfin fait un courrier au président iranien pour demander la libération non seulement de Saïd, mais d'autres personnes qui sont injustement détenus dans des prisons en Iran. Et puis il dit que quand il y aura ces grandes persécutions, qu'on se retrouvera en prison, verset 13, cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. C'est ce que fait le pasteur Saïd, entre autres, on le sait par les nouvelles qui viennent de sa famille qui peut lui rendre visite. On sait aussi que les disciples en prison chantaient des cantiques la nuit. Encore une fois, si c'est injustement que vous êtes accusé et emprisonné, vous pouvez vraiment compter sur le Seigneur pour vous encourager et pour vous permettre de témoigner. Verset 14, j'aime beaucoup, c'est « Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais combien de fois je prémédite ma défense lorsque, en vélo, je ne m'arrête pas à un feu rouge, lorsque je remonte une rue en sens interdit, et ma culpabilité, mon sentiment de « je suis en train de violer la loi », tout de suite, je vais chercher dans mon esprit, je m'en aperçois qu'en y réfléchissant, je sais exactement ce que je dirais à l'agent de police. Je préfère m'éloigner des voitures qui vont démarrer tout en même temps et où je suis instable, je préfère être déjà en… je pense que c'est plus sûr. Ça passera pas, mais Jésus dit à ses disciples-là de ne pas préméditer leur défense lorsqu'on les accuse et qu'on les persécute pour la cause de son nom. Il dit qu'il va leur donner une bouche et une sagesse par l'Esprit Saint, dans d'autres passages, à laquelle les adversaires ne pourront pas résister, ne pourront pas vous contredire. Il y aura des trahisons, même par la famille proche, des parents, des frères, des proches, des amis. C'est intéressant parce qu'on parle du mot martyr, et dans notre idée, le mot maintenant veut dire de quelqu'un qui souffre de grandes souffrances physiques, un martyr. Mais le mot veut dire témoin, simplement. Un martyr, c'est quelqu'un qui témoigne de sa foi, parce que même dans les plus atroces souffrances, les plus atroces persécutions, il parle de son Dieu, il témoigne. Et donc, parce que ces témoins étaient prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême, dans notre langage, le mot martyr est resté associé avec la partie de souffrance et malheureusement pas avec la partie témoignage de Dieu qu'il avait à l'origine. Et puis, il dit, il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, par votre persévérance, vous sauvegarderez vos âmes. Alors certains disent, il est dit, plusieurs d'entre vous vont mourir, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. C'est un peu bizarre, ça a l'air d'une contradiction. Alors c'est vrai qu'on peut mourir sans perdre ses cheveux. Mais je crois que ce que Jésus veut dire, et on le voit dans le passage de équivalent de Matthieu 24, le fait que Jésus connaît le nombre de nos cheveux, il y a une autre réalité, il y a autre chose après la vie terrestre. C'est pas tout ce qui compte. Alors c'est facile de dire ça lorsqu'on est confortable et qu'on n'est pas menacé physiquement de mort physique. Mais je crois que c'est une des façons aussi dont lorsque la menace physique, on peut penser à ces chrétiens qui ont été décapités par Daesh, la réalité de la mort nous fait face. Et c'est là que la foi en Dieu, la foi d'une vie après la mort, doit nous soutenir. Alors, je ne sais pas, dans le cas de Daesh, on dit que souvent, ou du moins ça a été rapporté, qu'en fait les condamnés à mort qu'on voit exécutés on leur a dit qu'en fait, ils allaient faire une vidéo de propagande, mais qu'on n'allait pas les tuer. Peut-être pour éviter qu'au dernier moment, ils, quitte à mourir, autant mourir en se rebellant. Ou... Mais peu importe, ici, Jésus nous dit, ne soyez pas effrayés par les persécutions religieuses. C'est important lorsque Jésus parle comme ça d'aller voir les impératifs qu'il nous donne. Il nous dit ne soyez pas, prenez garde d'être séduits, verset 8, c'est-à-dire ne soyez pas trompés. On sait que Satan peut se déguiser en ange de lumière, il est un maître de la tromperie, il est le père du mensonge. Et donc ne soyez pas trompés. Il nous dit de ne pas avoir peur, ne vous effrayez pas, verset 9. Lorsque toutes ces choses arriveront, alors souvent on voit aussi ces événements, les guerres, on dit qu'en fait... Il semble qu'il y ait de plus en plus de guerres. C'est vrai que la guerre de 39-40, on l'appelait, la Première Guerre mondiale, on l'avait appelée la Der des Der, la dernière des dernières. Et quelques années, quelques décennies plus tard, il y avait une guerre encore plus terrible. Et aujourd'hui, il y a des guerres sans arrêt de par le monde. On estime qu'il y a à peu près eu, l'histoire a été enregistrée, ça fait depuis 3438 ans, en 2015, qu'on a des récits de batailles, de guerres et de royaumes. Sur ces 3938 années d'histoire enregistrée, on n'en connaît que 268 où il n'y aurait pas eu une guerre quelque part sur la Terre. Quel est notre problème? On est malade. On le sait, cette maladie, c'est la maladie du péché. On veut ce qu'a l'autre. On méprise l'autre, on le considère inférieur, on veut le détruire. Et lorsque j'étais enfant, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait le sentiment qu'en fait, avec l'Organisation des Nations Unies, l'intelligence humaine qui était répandue, l'éducation, que toutes ces choses allaient disparaître, ces guerres. Et on voit aujourd'hui qu'on a la guerre en Ukraine, on a la guerre en Syrie, en Irak, en Libye, en Tunisie. Maintenant, il y a une guerre contre le terrorisme. Alors on se dit, ça y est, c'est la fin des temps. Alors c'est vrai que on est plus près de la fin des temps maintenant que ce matin quand on a chanté. C'est logique. Mais encore une fois, le fait qu'il y ait plus de tremblements de terre, c'est peut-être simplement le fait qu'il y a une meilleure information, des sismographes qui nous disent qu'il y a eu un tremblement de terre à échelle 6.8 au milieu du Pacifique, peut-être un tsunami. Mais ces choses doivent venir comme des signes. Il y aura des maladies. Là aussi, on pensait avec les progrès, la découverte des antibiotiques, que les maladies allaient disparaître. Et puis, on voit qu'il y a des nouvelles fièvres qui arrivent, contre lesquelles on n'a aucun remède. Et puis, quand on trouve un remède, c'est le virus qui change un peu. On est vraiment dans des périodes de peste. La famine, alors nous faisons souci pour perdre un peu de poids, mais il y a beaucoup de pays dans le monde, malheureusement, où les gens n'ont pas de quoi manger. Des problèmes de malnutrition. Il y aura des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. Pour la première fois depuis très longtemps, ou peut-être pour la première fois, dans le nord de la France, il y a eu des aurores boréales, dû à une activité solaire particulièrement forte. Mais il dit, avant tout cela, de toute façon, on va vous persécuter. Alors là, on va lire le reste de ce chapitre, on va voir que c'est le problème ou la perspective des prophéties, c'est qu'il y a souvent une réalisation proche, des fois une réalisation immédiate, une réalisation dans un futur proche, et puis une réalisation de la prophétie dans un futur de la fin des temps. Si vous entendez le mot eschatologie, ça veut dire l'étude des eschatos, des derniers. Si vous êtes arrivé le dernier dans la salle, vous êtes l'eschatos. Et donc logie, c'est l'étude des temps derniers. Donc en termes eschatologiques, on dit qu'il y a une réalisation prophétique dans la fin des temps dont il est question dans le prophète Daniel, dans l'Apocalypse, dans Matthieu 24 aussi. Ces réalisations, quand on est au début, on a du mal à des fois à séparer ce qui va se passer de façon proche, dans un futur proche, et ce qui va se passer pour la fin des temps. Là, Jésus parle à ses disciples, il leur parle de choses qui vont se produire rapidement. Il a dit que le temple allait être détruit. Et on sait que, là on est en l'an 32, 38 ans plus tard, Jérusalem allait être détruite. Le temple allait être complètement détruit. Le temple d'Hérode allait être détruit. On a des récits très, très détaillés par cet historien juif, Flavius Joseph. Vous pouvez trouver en librairie la description de ces guerres et c'est impressionnant. Et puis c'était le général Titus qui était à l'époque un des généraux de l'empereur Vespasien, l'empereur romain, qui est venu mettre le siège à Jérusalem. Et c'était terrible et... Lisons la suite, verset 20. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » C'est ce qui s'est passé en l'an 70. Donc en l'an 68, il a commencé à avoir des troupes qui sont venues pour mater les révoltes des Juifs. « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent et que ceux qui seront dans les campagnes n'entre pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. » Et je vais m'arrêter là, parce que je pense que le verset 24, c'est justement un verset qui agit comme un pivot. Jusque-là, Jésus parle de quelque chose qui va se réaliser de façon proche. 38 ans plus tard, ce sera accompli. Mais après, il va reprendre une vision eschatologique, une vision de la fin des temps. Et le même historien Joseph dit que les chrétiens, d'habitude, on pense que rester dans la ville, avec les fortifications, les murailles, des garnisons, c'est l'endroit le plus sûr. Mais là, Jésus donnait la recommandation à ses croyants, à ses fidèles, de ne pas rester parce que tout allait être détruit. Et il est vrai que l'historien Flavius Joseph le raconte, il y a eu les chrétiens qui obéissaient à cette loi ont eu la vie sauve, ils ont pu se réfugier ailleurs et ne pas être complètement détruits. On parle à l'époque d'une population de près de 2 millions de personnes. Et sur ces 2 millions, il y a 1 million et 100 000 personnes qui ont été tuées. Ça a été un carnage incroyable. Les scènes qui sont décrites par Flavius Joseph donnent, j'allais dire, la chair de poule, sont tragiques, sont terribles. On voit des mamans qui mangeaient leurs bébés, des choses innommables. Il y avait une détresse terrible. Ils sont tombés sous le tranchant de l'épée et d'autres sont partis captifs dans toutes les nations. Et on va lire le reste à partir de la moitié du verset 24. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rondront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit au mont dit des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Jésus sait que les chefs religieux veulent le faire mourir, mais il est courageux et il continue d'enseigner et d'annoncer la vérité. Et ici, il parle de la fin des temps. Jérusalem sera foulée aux pieds parmi les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. On pense que Jérusalem a été foulée aux pieds, elle l'avait déjà été par les troupes de Antiochus Épiphane à l'époque des Maccabées, dans la période entre les deux testaments. Mais là, elle va être foulée aux pieds par les Romains, par les nations. Les nations, c'est souvent ce qu'on traduit par les gentils ou les païens. C'est le mot ethnos qui veut dire une race, par opposition aux juifs. Et donc on pense que Jérusalem a été foulée aux pieds, là Jésus le parle, l'annonce pour l'an 70, mais il dit jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors certains pensent que lorsque l'État de Jérusalem, de l'État d'Israël, pardon, a été reconstruit en mars 1948, 14 mars je crois, 1948, ça correspond à la fin de la domination de Jérusalem, que Jérusalem n'est plus foulée aux pieds parmi les nations. Malheureusement, même sur le mont du Temple, ce que la presse, les médias français appellent l'esplanade des mosquées, tout dépend de la façon dont on utilise les termes. Si on veut dire que ça appartient aux Arabes, on dit que c'est l'esplanade des mosquées. Si on revendique l'historicité et l'appartenance de cet endroit aux Juifs de toute éternité, avant même que Mohammed ne soit là, c'est le mont du Temple. Et justement, c'est encore les Jordaniens qui ont le contrôle de police du mont du Temple. Lorsqu'on va à Jérusalem et qu'on veut aller sur ce mont du Temple, on passe par des checkpoints et c'est pas les Juifs qui ont le contrôle. Et beaucoup pensent qu'en fait le temps des nations sera accompli lorsque Jésus reviendra. Et là, encore une fois, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Là, on se rapproche des descriptions de la fin des temps que l'on trouve dans Daniel 9 et d'autres chapitres, et aussi, bien sûr, dans l'Apocalypse. Euh, Les puissances des cieux seront ébranlées et on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Il y a beaucoup de façons de voir la fin des temps au niveau du retour de Christ, de l'enlèvement de l'Église. Pour moi et pour beaucoup de pasteurs de Calvary Chapel, en fait, la meilleure interprétation, il y a des problèmes dans chacune des interprétations. L'interprétation qui, entre guillemets, colle le plus aux descriptions bibliques, c'est l'idée qu'il y aura d'abord un enlèvement de l'Église, qui peut intervenir à n'importe quel moment. Donc vous ne pouvez pas vous dire, je vais attendre qu'il y ait ces grands tremblements de terre, à ce moment-là, je commencerai à venir à l'Église, à me repentir de mes péchés, je commencerai à cesser de tricher avec ma femme ou avec mes impôts. Non, la fin... Le retour de Christ pour son Église est décrit dans 1 Thessaloniciens 4, il vient comme un voleur dans la nuit. Vous ne pouvez pas le prévoir. On sait qu'on se rapproche vers la fin des temps, on voit les guerres, on voit les qui ne sont pas nécessairement encore plus nombreuses. Et il y a une expression qui est utilisée dans Matthieu qui parle des douleurs de l'accouchement. Et pour ceux qui ont eu des enfants, pour les femmes qui ont eu des enfants, pour les hommes qui ont eu des femmes qui ont eu des enfants, ou qui ont des femmes qui ont eu des enfants, vous savez que ce qui compte, c'est la rapidité de la succession, la fréquence, l'augmentation de la fréquence des douleurs. On peut avoir des douleurs un mois avant, mais c'est quand ça devient régulier qu'on vous apprend à respirer et qu'on part en vitesse ou qu'on fait venir la sage-femme en vitesse pour procéder à la délivrance, procéder à l'accouchement. Délivrance, c'est le mot en anglais, delivery, qui est souvent une grande délivrance. Et votre délivrance approche lorsque toutes ces choses arrivent et on verra le Fils de l'homme, là il reviendra aux yeux de tous. La première fois, il reviendra dans les nuées, 1 Thessaloniciens 4, il reviendra dans les nuées, et là tout le monde le verra, et ce sera l'arrivée du règne de 1000 ans de Jésus sur terre. Donc nous voyons dans ce qu'on appelle la vision pré-tribulationniste, l'enlèvement de l'Église, tout l'ensemble des chrétiens sont enlevés par Jésus, pour être avec lui pour toujours. Et puis, il y a son retour aux yeux de tous, il vient et il prend le contrôle de la terre, il remettra vraiment les pendules à l'heure et il établira un règne de 1000 ans avant de détruire et de recréer des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et il dit, alors on sait qu'il est dit quelque part dans la Bible que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni l'heure du retour. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous savez où c'est ? C'est dans un autre passage qui parle de cette fin des temps, c'est dans l'autre explication du discours du Mont des Oliviers, dans Matthieu 24, Matthieu 24, 36. C'est important de connaître ce verset. Pas seulement de le savoir, mais de pouvoir donner l'adresse pour que vos témoins de Jéhovah ou vos autres mammons qui vous donnent des dates ridicules, vous leur dites, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors là, je vous mets en garde parce que certains pensent, donc ça prouve que le Père est au-dessus du Fils. Donc il y a le Père, le Fils un peu plus bas, puis le Saint-Esprit qui vient faire le ménage le samedi un peu... Non, non, non. Jésus, lorsqu'il a accepté de venir sur terre mourir pour nos péchés, Paul le décrit dans Philippiens, il a renoncé à ses prérogatives divines. Et c'est pour ça que là, il ne savait pas la date, le jour exact. En plus, on ne pouvait pas le torturer pour lui demander, il ne savait pas. Mais rappelez-vous ce verset, parce qu'on a toujours des gens qui viennent vous dire, ça y est, c'est le retour de Jésus, c'est en 1864. Ça, c'était les témoins de Jéhovah. Et depuis, ils ont changé leur date une centaine de fois. Vous ne pouvez pas dire la date. Vous pouvez savoir que vous vous rapprochez de l'été lorsque c'est l'heure d'été qui arrive. Mais surtout lorsque vous voyez les choses refleurir. On a parlé de la vigne qui était un symbole dans Ésaïe 1 à 5 d'Israël. Un autre symbole qui, une autre représentation symbolique d'Israël, c'est le figuier. Dans Osée, le prophète Osée 9-10, on en a parlé aussi dans Luc 13, 6 à 10, il est dit, verset 29, « Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même en regardant que l'été est proche. » Autrement dit, Israël a bourgeonné. Israël va bourgeonner. Et pour beaucoup, et je suis de cela, le fait qu'après 2000 ans pratiquement d'exil, de destruction d'une nation, le 14 mai 1948, Jérusalem est devenue une nation. C'est un fait absolument unique dans l'histoire, dans les annales de l'humanité. Les Babyloniens ont été détruits. Vous voyez pas, je vous mets au défi de me trouver un Babylonien. Alors, il y a peut-être des gens qui habitent dans la région, mais ils n'ont pas été reconstitués en tant que nation. C'est unique. C'est un signe que Dieu a un plan spécial pour Israël. Il avait un plan spécial dès le départ. Il fallait qu'il atterrisse dans la race humaine. Il avait choisi Abraham. Il est venu par cette race. Et ce n'était pas parce qu'ils étaient spéciaux, c'est parce qu'il fallait bien qu'il arrive quelque part. Il aurait pu arriver chez les Corses, moi je vous le dis. Il aurait pu arriver chez les Bretons, chez les Ch'tis. Mais dans sa souveraineté, dans sa toute puissance et connaissance, il a choisi le peuple juif. Et ce qui est terrible, c'est que les Juifs ont pris ce choix pour une réflexion sur leur qualité. Ils ont été remplis d'orgueil. En fait, ils les avaient choisis pour répandre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. C'était les promesses faites à Abraham. Ils devaient être des témoins et en fait, ils en ont fait une religion qu'ils ont gardée pour eux-mêmes, donc ils se sont enorgueillis. Et nous aussi, nous avons ce danger des fois de... Ce n'est pas de ma faute si j'ai eu le privilège d'être sauvé par Jésus-Christ. Ce n'est pas mes mérites personnels. Non, ça doit me remplir de reconnaissance et je dois vouloir toucher les autres parce que ça m'a donné la paix, ça m'a donné un sens à ma vie, mais surtout ça a sauvé mon âme pour l'éternité. Et donc, il leur disait, on peut penser que l'horloge de l'histoire eschatologique, l'horloge de l'histoire de la fin des temps est bien avancée. Israël est reconstitué en nation. Satan a toujours essayé de détruire Israël. Au départ, pour éviter que le Messie ne puisse arriver, et maintenant, pour que le Messie ne puisse pas revenir. Parce qu'il doit y avoir un temple reconstruit. S'il détruit Israël, s'il n'y a pas d'État d'Israël, s'il n'y a pas de Juifs prêts à construire un temple, il n'y aura pas de retour. Et cela explique la nature diabolique de l'antisémitisme. On parle de l'antisionisme, qui se parle de l'opposition aux politiques terrestres, politiques physiques d'Israël, et rien ne vous empêche de ne pas être d'accord avec tout ce que fait l'État d'Israël ou la façon dont il fait les choses. Mais gardez-vous de tomber dans l'antisémitisme. Ce n'est pas biblique, c'est un grand péché. Jésus était un juif. Et on sait que c'est très, en Europe occidentale, l'antisémitisme grandit rapidement. Il y a une opposition, bien sûr, de religion qui fait que l'islam s'oppose à Israël. Mais ce qui est remarquable, c'est que ce petit pays tient la dragée haute depuis 1948, qu'il a été reconstruit. Il est entouré par des États qui veulent sa destruction, par des millions de personnes. Il ne représente même pas 1% de la surface géographique et de la population des nations qui veulent sa destruction, mais il est toujours là. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le plan de Dieu, j'en suis convaincu. Et encore une fois, on peut dire que Israël a bourgeonné. Les eaux, la parabole des eaux des cadavres dans Ézéchiel qui se reconstituent, c'est aussi une allusion pour moi à la reconstitution d'Israël en état sur la planète Terre. Une autre question, c'est alors les autres arbres, on peut penser que ce sont aussi les autres nations. Avec l'Organisation des Nations Unies, on semblait à un moment se diriger vers des blocs et les nations ne comptaient plus. Il y avait la Yougoslavie qui représentait un État unique, alors qu'avant il y avait des tas de petits États. Mais depuis quelques années, on a vu qu'il y a resurgir les nationalismes et les nations. On voit ça en ce moment en Ukraine. Il y a des gens qui se disent « Non, moi je ne veux pas être en Ukraine, je veux être indépendant, je veux revenir en Russie. » On voit ça, il y a plus de nations maintenant qu'au sortir de la guerre. Il y a bien sûr la décolonisation qui a amené la naissance de beaucoup d'États, en Afrique notamment. Mais toutes ces choses, ça participe du mouvement vers la fin des temps. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. On ne peut pas dire la date. Proche, ça peut être proche dans 10 ans, proche dans 20 ans, dans 100 ans, même 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour pour le Seigneur, dira Pierre. Jésus était là le week-end dernier. 2 jours, 2000 ans. Donc nous, dans notre esprit, c'est long, mais pour l'horloge divine, c'est rien du tout. Alors, il y a un verset qui pose problème, c'est « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Est-ce que Jésus parlait des gens à qui il parlait en disant « Vous serez encore là quand toutes ces choses vont arriver ?» De toute évidence, toutes ces choses ne sont pas arrivées. On n'a pas vu le Fils de l'homme venir sur une nuée, il était là par terre, sur terre plutôt. Et on peut dire « Bon, la Bible s'est trompée » ou alors on se dit « On comprend mal ». Et c'est vrai que le mot « génération », ça peut vouloir dire « race ». Il y a des passages qui sont utilisés où ce terme est utilisé pour, par exemple, Marc 8, 12, il parle de la génération pour parler de la race des Juifs. Donc cette génération, les Juifs seront toujours là lorsque ces choses arriveront. Ou bien simplement, une autre façon qui me semble plus naturelle, c'est de dire que ça désigne les gens qui verront le début de ces choses arriver une fois que ça va se déclencher. Ça va aller très vite. Et c'est souvent le cas dans la Bible. Dans l'Apocalypse aussi, il est dit, ces choses vont se passer rapidement, vont venir rapidement, mais souvent c'est simplement le fait que lorsque ça se déclenche, ça va très vite. Et là encore une fois, ce qui compte, c'est pas de trouver le calendrier exact, mais c'est de dire, qu'est-ce que ça... Comment ça impacte ma vie? Et là encore, regardons les impératifs que Jésus utilise. Prenez garde à vous-même. Faites attention à ce que vous faites. Parce que vos cœurs pourraient s'apesantir, s'alourdir par les excès dans une vie de plaisir, de travail acharné, même la boisson. Les soucis de la vie qui sont légitimes et qui peuvent nous accabler. Et si on est accablé par ces choses, si on ne prend pas le temps d'avoir un temps quotidien avec le Seigneur, ce jour peut tomber sur nous à l'improviste. Oups ! Comme un filet. Un filet qu'on jette sur des oiseaux et d'un seul coup, il se retrouve emprisonné. Il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Donc ce n'était pas seulement Jérusalem en l'an 70. Veillez donc, veiller? Est-ce que je regarde ce qui se passe autour de moi? Est-ce que je suis réveillé? Pour veiller, il faut être réveillé. Si on vous met comme sentinelle et qu'on vous trouve endormi, ça va mal se passer pour vous en tant que militaire. Et puis, priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous devons rester alertes, nous devons faire attention, nous devons rester éveillés et nous devons prier en tout temps. Donc l'idée de savoir exactement la date, de connaître 666, ou de connaître exactement ce que veut dire le bourgeonnement des autres arbres, tout ça c'est pas essentiel. C'est bien de se poser les questions, c'est bien d'essayer de voir comment on peut trouver des réponses, mais Jésus revient toujours à quelque chose de très pratique. Faites attention à vous, comment vous vivez. Puisque vous ne savez pas quand ça va arriver, il faut être prêt tout le temps. J'avais un ami pasteur qui avait dans sa congrégation un jardinier d'une belle villa à Villefranche-sur-Mer. Et les propriétaires ne venaient que 3 ou 4 fois par an pour un week-end ou pour une semaine au maximum. Mais son travail, c'était de maintenir la maison et les jardins en parfait état. Il ne savait jamais quand on lui passait un coup de fil le matin pour lui dire qu'on serait là l'après-midi. Le Seigneur peut, même sans nous passer de coup de fil, il peut arriver, on peut être enlevé par lui pour être avec lui pour toujours. Ce qui compte, c'est de veiller, de prendre garde à nous-mêmes et de prier. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce sermon. Et tu vois combien le sens est pour nous des fois difficile à saisir complètement. Mais en même temps, Seigneur, si nous nous focalisons sur ce que tu nous commandes, alors nous savons que nous n'avons pas tout faux, Seigneur. Et nous, à nous attendre à ton retour à tout instant, Seigneur. Merci pour ces signes avant-coureurs qui peuvent nous convaincre ou nous inciter à partager cette bonne nouvelle avec plus de monde, avec plus de zèle. Et c'est vrai, Seigneur, que tous ces événements nous montrent que ton retour est pour très bientôt, Seigneur. Aide-nous à vivre en dehors du péché, Seigneur. Aide-nous à résister aux tentations, à ne pas être séduits par Satan, ses mensonges. Aide-nous à ne pas nous abreuver des mensonges du monde sans prendre le temps de recevoir ta vérité, Seigneur. Aide-nous tous à lire ta parole chaque jour, à la méditer, à la prier. Aide-nous tous, Seigneur, à avoir une communion fraternelle avec nos frères, à partager. Donne-nous tous d'être généreux pour ton royaume, Seigneur. Et Seigneur, garde-nous dans une attitude de prière pour que ta maison soit une maison de prière. Prions ces choses dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.